Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans le désordre, New York, Miami, Monsieur Smith au Sénat, La vie est belle, l'extravagant Mr. Deeds, et bien sûr, Arsenic et vieille dentelle. Les films de Frank Capra, Fluidité, Sens de l'ellipse, Drôlerie, Virtuosité, mais aussi films politiques, du moins message transmis via la comédie. Un metteur en scène très optimiste. L'Amérique est, pour lui, le seul pays où tout le monde peut réussir. Et pourtant, des films contestataires. Mardi du cinéma, Frank Capra ou la comédie de l'ambiguïté, première diffusion sur France Culture le 3 mai 1988. Êtes-vous, serez-vous encore pitiatique ?
Les mardis du cinéma. Frank Capra ou la comédie de l'ambiguïté par Michel Cazenave.
Il est toujours pitiatique. Aucun doute là-dessus.
Avec Noël Simsolo et Dominique Rabourdin, écrivain et critique de cinéma.
Dominique Rabourdin, il n'y a pas longtemps, finalement, à la télévision française, on a pu revoir tout un certain nombre de films de Capra. Et j'ai été tout à fait étonné de la réaction d'un certain nombre de téléspectateurs pour lesquels je me suis aperçu que, d'une part, ils ne savaient plus qui était Capra et que lorsqu'on leur montrait de ces films, tout à coup, ils avaient l'impression de redécouvrir un grand metteur en scène. Alors, il y a déjà quelque chose d'étonnant lorsqu'on songe à ce qu'a représenté Capra dans le Hollywood des années 30 et du début des années 40, déjà de penser qu'il avait pu tomber ainsi dans l'oubli.
Peut-être parce que les films de Capra ont été l'occasion de rôles extrêmement célèbres pour Gary Cooper, pour James Stewart, pour Cary Grant, et que la personnalité des acteurs a un petit peu occulté celle de Capra. En plus, ce sont tellement les modèles d'une certaine comédie américaine qu'on en arrive peut-être à oublier l'auteur. C'est tellement entré dans les mœurs, dans les habitudes, qu'on ne perçoit plus 50 ans après l'originalité des films. C'est-à-dire que Monsieur Smith au Sénat ou l'extravagant Monsieur Deeds sont vraiment des classiques tellement célèbres qu'on a l'impression que Capra est un petit peu oublié dans l'histoire et qu'on ne fait pas la différence entre une comédie de cette époque, qu'elle soit de Capra ou qu'elle soit de McCarey. C'est pas des styles aussi immédiatement reconnaissables, toute proportion gardée, que celui de Lubitsch.
Allez, vous en faites pas. Laissez-moi faire.
Oh, c'est autre chose qui m'inquiète.
C'est quoi ?
Je me demande s'ils vont trouver un autre tuba pour jouer à ma place.
Thank you. from these honored dead, we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly
resolve
that these dead shall not have died in vain. That this nation under God shall have a new birth of
freedom.
And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
Noël Simsolo, la première question que l'on peut éventuellement se poser à propos de Capra, c'est que, en fin de compte, il fait partie de cette génération de cinéastes qui soit sont directement des émigrés en Amérique, soit sont des fils d'émigrés, je dirais, font partie d'une émigration assez fraîche. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là déjà quelque chose qui le distingue, puisque dès le départ, on peut dire, ce n'est pas un véritable Américain traditionnel, si tant est que ce mot ait un sens déjà un peu avant la moitié du XXe siècle, mais c'est un Américain d'adoption.
Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait, ce qui serait intéressant de voir, c'est, si vous voulez, si on prend trois cinéastes comme ça, on prend Capra, on prend Ford et on prend Kazan. Bon, c'est donc trois émigrés, l'un irlandais, l'un grec et Capra italien. Et ce sont des gens qui n'ont pas eu le même... itinéraire, mais c'est des gens qui quand même sont arrivés de rien et Amérique leur a ouvert les portes. C'est-à-dire que, à part Kazan qui était un homme très engagé, qui a pris des positions avec toute l'ambiguïté que ça comporte un peu contre l'Amérique, si on voit Ford et si on voit Capra, et moi je les rapproche beaucoup, c'est quoi ? Ce sont deux émigrés qui connaissaient pas l'Amérique et l'Amérique leur donne tout. La gloire, la fortune, la réussite, la chance, ils y croient. Ils y croient tellement que ces deux cinéastes, l'un irlandais, catholique, l'autre, disons, né en Italie, il est arrivé à 5-6 ans aux États-Unis de parents paysans. Il travaillait lui-même, Capra, pour faire ses études. Bon, et il a bluffé, il a fait croire à Hollywood qu'il était déjà metteur en scène, un acteur, pour pouvoir entrer dans le monde d'Hollywood. Et il a bluffé aussi Max Sennett pour entrer dans Gagman. Donc il a essayé ce côté, la combination à l'italienne, pour arriver. Bon, et l'Amérique leur donne tout. Donc il est normal que ces émigrés qui ne sont pas américains au départ soient plus pro-américains, en fin de compte, dans leur cinéma et dans leur discours, que les américains de souche, de souche plus lointaine, comme Hawks par exemple, ou Walsh, qui est d'origine irlandaise, mais différemment. Mais Ford et Capra sont certainement ceux qui ont été les plus défenseurs d'une idée de la démocratie américaine, avec une générosité et une conviction immense qu'on ne trouvera jamais chez un cinéaste américain depuis deux ou trois générations. Ça, c'est ça.
Vous faites la comparaison entre les comédies de Macaré et les comédies de Capra. On a l'impression tout de même que si l'on fait attention par exemple à ce qui est la thématique de fond de ces comédies, à ce qui est les idées en quelque sorte qui sont propagées, il y a quand même bien une différence quand même très très claire, et en particulier je pense qu'on ne peut pas confondre un scénario de Macaré avec un scénario de Capra.
Non, on ne peut pas du tout les confondre, parce que les scénarios de Macaré sont beaucoup plus délirants, la comédie est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup moins sociale, elle est peut-être moins sentimentale dans les films de Macaré que dans les films de Capra. Mais je veux dire, c'est un petit peu la même firme, c'est-à-dire souvent la Columbia dans les années 35-40, ce sont souvent les mêmes acteurs, et c'est pour ça qu'il peut y avoir une toute petite confusion dans la mesure où il s'agit de classiques, de films célèbres et qui sont quand même un peu proches.
Comme Capra venait du peuple, venait vraiment de la toute petite Italie, à New York, du peuple, il s'est passé une chose, c'est qu'il avait une concession avec lui-même, malgré l'ambition qui était la sienne de devenir une sorte de cinéaste extraordinaire, reconnu, grand artiste, il voulait toujours rester près du peuple. Pas près du peuple avec démagogie, c'est une concession parce que lui s'était élevé, mais dire, si le peuple ne rit pas, je me trompe. Si le peuple n'est pas ému, je me trompe. Donc je reste près du populaire, et curieusement, alors que c'était pas un calcul tout à fait, Il retrouvait la base même de tous les émigrés qu'avait fait Hollywood, c'est-à-dire tous les producteurs, là on parle plus des cinéastes, qui étaient le cinéma est fait pour le peuple, c'est lui qui apporte son argent, pas les snobs, pas les riches, pas les élites. Et en fait, il a répondu au portrait. Si vous voulez, si aujourd'hui on faisait un portrait robot des cinéastes américains de la première et deuxième génération, on trouverait Capra. Capra, c'est vraiment Monsieur Rien qui arrive, qui avec son intelligence, avec sa volonté, avec son courage, comprend l'Amérique au point qu'il devient l'Amérique et devient un modèle de l'Amérique pour les Américains. Et je crois que c'est quand même un itinéraire très curieux.
Eh bien voilà, la tombe de Grant, vous n'êtes pas déçu?
C'est magnifique.
La plupart des gens la trouvent assez laide.
Hein?
Je dis que la plupart des gens la trouvent laide.
Oh, tout dépend de ce qu'ils y voient.
Et vous, qu'est-ce que vous y voyez?
Moi? Oh, j'y vois, venant de l'Ohio, un fermier s'affirmant un grand soldat. J'y vois des masses d'hommes en marche. J'y vois le général Lee, le cœur brisé avouant sa défaite. J'y vois le début d'une nation nouvelle telle que Abraham Lincoln l'a vue. Et j'y vois le fils de l'Ohio parvenant à se faire élire à la présidence. Voilà des choses qui seraient inconcevables ailleurs qu'en Amérique. Je suis ému.
Dans l'extravagant Mr. Deeds, tourné en 1935 avec Gary Cooper, le premier thème que l'on trouve, c'est celui de l'opposition de la naïveté dans le sens de l'innocence et de l'innocence de l'esprit, donc de la naïveté de la campagne opposée à ce que l'on pourrait presque appeler la corruption de la ville. La corruption de la ville du point de vue de l'argent, du point de vue en même temps des mœurs générales. Ce que l'on trouve aussi est dans le même état d'esprit, mais inscrit très précisément dans le contexte de la Grande Dépression qui a saisi l'Amérique, c'est l'idée d'une sorte de libéralisme, pour ne pas dire à la limite d'esprit libertaire, grâce à quoi les gens vont retrouver leur dignité par le retour à la campagne, par la possession de la terre, une possession de la terre comme gratuite, opposée justement à toutes les puissances d'argent, à toutes les puissances du capital, dévoyées bien entendu, qui sont celles de la grande ville. Et à travers la scène finale du tribunal où Mr. Deeds est jugé pour incapacité légale à gérer sa fortune, et on voit ainsi bien ce thème de l'argent comme il est central dans la réflexion même de Capra, dans cette scène finale, ce à quoi l'on assiste, c'est justement à un renversement de la justice, un renversement du jugement en même temps, comme si la justice était subvertie de l'intérieur, et où se retrouve au banc des accusés ce qui, au départ, était l'accusateur, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire l'argent.
Voyez-vous que je voudrais sauver Monsieur Cédar, qui est juste fatigué de ramer et qui demande qu'on le tire, ou ces hommes qui sont en train de se noyer? Un enfant de 10 ans saurait répondre à la question. Merci, mes amis, vous pouvez vous asseoir. Mon plan est vraiment très simple. Je veux donner à chaque famille 5 hectares, un cheval, une vache et des semences, et qu'après 3 ans, la ferme devienne leur propriété. Maintenant, si je suis fou, il faut peut-être m'envoyer dans un asile. Mais je ne crois pas l'être. Et qui plus est, Monsieur Cédar non plus. Juste avant que l'audience ne débute, il a offert de retirer sa plainte si j'acceptais un règlement à l'amiable. Vous le voyez, il ne me traiterait plus de fou s'il en tirait profit.
C'est un mensonge, c'est un mensonge.
Imagination. Je n'ai jamais entendu une aussi colossale stupidité de ma vie. C'est une insulte à notre intelligence de nous faire écouter ces sornettes et ces enfants
de. Je vous prie de permettre à Monsieur Deeds de finir.
Mais enfin, votre honneur.
Monsieur Cédar.
Capra, c'est essentiellement la comédie sociale des années Roosevelt, dans les années 35-36, avec des personnages idéalistes en but à des tyrans ou à des gens qui miraculeusement vont redevenir très gentils. Ce sont des films qu'on pourrait dire très optimistes, et je ne sais pas s'ils sont très optimistes, parce qu'on a toujours l'impression d'une sorte de Deus ex machina qui intervient à la fin des films pour qu'il y ait une happy end. Ce sont des films étranges. En fait, j'ai l'impression surtout que j'arrive pas à parler clairement de Capra, parce qu'il y a beaucoup de différences entre les premiers films de Capra des années 30 et les derniers films de Capra des années 50-60. Les plus célèbres, ce sont les grands films des années 34-40, depuis New York, Miami, jusqu'à Vous ne l'emporterez pas avec vous, jusqu'à L'extravagant Monsieur Deeds. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. Mais le style de Capra, Je ne sais pas si on peut en parler vraiment en termes de mise en scène, Capra étant un producteur scénariste qui met en scène des scénarios qu'il a écrits lui-même ou en participation avec des collaborateurs qu'il a choisis, c'est vraiment un auteur complet, c'est pas quelqu'un qui s'exerce purement sur la mise en scène comme McCarey ou comme Lubitsch. C'est quelqu'un de moins brillant sur la forme, c'est quelqu'un qui est plus théâtral sur le jeu des acteurs, quelqu'un qui est peut-être plus réfléchi, plus conscient de l'importance du message qu'il doit faire passer. Ça fait la différence entre lui et McCarey ou lui et Lubitsch, qui n'ont absolument pas à se soucier de quelque message que ce soit.
Oui, mais alors, d'une certaine manière, lorsqu'on revoit ces films, j'étais très très frappé de se dire que, je dirais d'une certaine manière, c'est comme ça que je l'ai ressenti, la mise en scène était presque invisible. Et n'empêche que ça avait quand même une très grande efficacité. D'où la question que je me posais, mais en fin de compte, comment est-ce qu'il fait pour arriver à un résultat comme ça ?
Capra a toujours dit qu'il était un grand admirateur de Ford, que pour lui Ford était le plus grand cinéaste américain, et c'est vrai que dans les films de Capra, la mise en scène est avant tout fonctionnelle, je veux dire qu'il n'y a pas d'effet de style, c'est pas brillant, il n'y a pas de mouvement d'appareil compliqué ni sophistiqué comme il peut y en avoir chez d'autres cinéastes, c'est complètement fonctionnel. Par exemple, Arsenic et vieille dentelle, qui est un film très célèbre avec Cary Grant... C'est une pièce de théâtre filmée, et Capra cherche à peine à faire autre chose que du théâtre filmé. C'est rapide, c'est extrêmement bien joué, c'est brillant, mais il n'y a jamais le côté virtuose qu'il peut y avoir chez d'autres cinéastes. Il n'y a jamais d'éléments purement décoratifs. Capra a des choses très claires et très précises à dire. Il les dit aussi simplement que possible. La mise en scène est efficace. Oui. Alors que cette mise en scène me paraît parfois plus inventive, plus rapide et plus brillante dans les petits films qu'il tournait au rythme de 2 ou 3 par an dans ses débuts à la Columbia, dans les années 30, où là il y a des petites comédies comme Platinum Blonde par exemple avec Gene Harlow ou Broadway Bill qui sont peut-être plus brillants parce que en fait ils sont plus rapides, ils font 75 ou 80 minutes alors qu'après dans les grands films sociaux comme Monsieur Smith au Sénat, Capra va approcher les 2 heures et il va perdre un petit peu de rapidité et de brillant parce que c'est le message qu'il essaye de faire passer qui compte, et ça je crois que c'est peut-être une déperdition d'énergie quelque part.
Is hours off, the delegates are already pouring into the ballpark by the droves, with lunch baskets, banners, and petitions asking John Doe not to jump off any roof.
But no matter how you look at it, it's still a phenomenal movement. These John Does, or the hoi polloi, as you've heard people call them, have been laughed at and ridiculed, but here they are, gay and happy, having traveled thousands of miles, their expenses paid by their neighbors, to come here to pay homage to their hero, John Doe.
And in these days of wars and bombings, it's a hopeful sign that a simple idea like this can sweep the country. An idea based on friendliness, on giving and not taking, on helping your neighbor and asking nothing in return. And if a thing like this can happen, don't let any of your grumbling friends tell you that humanity is falling apart.
Mais finalement, on peut dire que Capra est quand même très optimiste. Je dirais même parfois à la limite de la naïveté, même dans la manière dont il décrit la nature de l'homme.
Naïveté un peu roublarde, hein, quand même. Roublarde, pas de manière malhonnête, mais il connaît très bien le cinéma. Il sait comment un regard de James Stewart à un moment peut faire pleurer tout le monde, mais qu'on espère qu'il va s'en tirer. Bon, ça, il le sait très très bien, il en joue aussi. Hein, il n'est pas si naïf que ça.
Oui, j'entends bien, mais là, je ne parle pas tellement, disons, de la mise en scène en général, que plutôt des héros qu'il dresse. Je pense, par exemple, à l'extravagant Mr. Deeds. Il est évident que là, il y a une espèce de naïveté absolument étonnante. Il y a quand même un peu, et d'ailleurs on le retrouve dans plusieurs de ses films, il y a un peu du chef scout dans ses héros. Et ce que je me dis, c'est que cet optimisme, quand même, est-ce que ce n'est pas ça qui fait le lien avec un engagement politique extrêmement, j'allais dire clair, peut-être pas clair, mais disons extrêmement net en faveur de la politique de Roosevelt. Je dis pas extrêmement clair parce que la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, en fin de compte, est-ce que derrière des prises de position qui sont plutôt de gauche, est-ce qu'il n'y a pas en même temps une espèce de tempérament plus ou moins de droite ?
Ça, c'est très très clair. Je crois que, bon, d'abord, le côté à gauche de Capra, à gauche de quoi d'ailleurs ? Bon, qu'est-ce que l'Amérique ? Capra, il veut croire, il se persuade, c'est la méthode Coué. L'Amérique, c'est génial. L'Amérique, c'est le seul pays où on peut être libre. L'Amérique, c'est le seul pays où tout le monde peut manger. Le seul pays où n'importe qui peut réussir, ce qui n'est pas vrai. On sait très bien le nombre de gens qui crevaient de faim à l'époque où il faisait ses films, qui ne réussissaient pas, des émigrés comme lui, qui sont restés dans leur quartier à crever de faim. Mais il veut y croire comme un fou. Et il croit à une idée humanitaire. Et il ne se rend pas compte que dans l'idéologie de Roosevelt, où il y a cette idée humanitaire, en effet, il y a aussi un projet politique très précis, c'est de restructurer l'Amérique d'une certaine manière. Bon, et en même temps, la rendre très forte en cas de nouvelle crise, la peur d'un nouveau krach. On a bien vu ce qui s'est passé récemment quand on a cru qu'il y avait un nouveau krach. Bon. Et il va se passer la chose quand même qui va là commencer à lui mettre la puce à l'oreille, à Capra, il faut quand même lui reconnaître ça, c'est que quand il voit la lenteur avec laquelle les Américains agissent contre la montée du fascisme en Europe, puis du nazisme, puis, enfin, le fascisme, ça le touchait, il était italien, bon, puis l'arrivée que va-t-on se battre ou non, qu'il faut attendre que les Japonais bombardent Pearl Harbor pour que les Américains quittent leur position de dire nous, on reste là, on bouge pas, alors que lui, déjà, il avait dans la tête d'agir, là, déjà, il était tout à fait d'accord avec la politique de Roosevelt en matière de politique extérieure. Il pensait qu'il y avait la sauvegarde du monde libre et que l'Europe devait pas être une succursale américaine seulement, mais qu'il fallait faire attention, car cette montée-là se répandait aux États-Unis. Je crois que le film qui fait en 41, enfin les années 40, est très clair, qui est L'homme de la rue, où c'est comment un fasciste, le premier plan du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est voir Arnold qui regarde s'entraîner sa garde, disons motorisée. Alors, sa garde motorisée fait penser à des flics américains d'abord, mais également aux nazis. Bon, donc là-dessus, il est très clair. Là-dessus, c'est un anti-nazi total. Bon, donc c'est là qu'on répond. C'est compliqué qu'après, il y a toujours une ambiguïté. On sent qu'il est naïf et on voit qu'il ne l'est pas tellement. On sent qu'il aime l'Amérique sincèrement et qu'en même temps, il ne veut pas entendre parler de ce qui ne va pas en Amérique, qui est attaquable à tout niveau parce qu'il veut que l'Amérique soit merveilleuse. C'est le pays du rêve, c'est Wonderland pour lui. Et tout le monde doit faire Wonderland. C'est que quelques individus méchants qui empêchent Wonderland. C'est le diable qui est venu chez les gens. Ce n'est pas les politiciens avec lui. Les politiciens, c'est les suppôts du diable, les mauvais. Mais ce n'est pas l'idéologie qu'il représente. Et il y a une contradiction. Quand on ne voit pas Chama Carré, par exemple, qui lui sera très nettement un homme de droite.
Je crois que Capra est moins ambitieux à ses débuts, où la seule chose qui compte pour lui, c'est de faire des films, quelles que soient les conditions. Là, je veux dire qu'à partir du moment où un producteur, en l'occurrence Harry Cohn, le chef de la Columbia, lui donne la responsabilité d'un film, il le fait jusqu'au bout, en abordant des genres relativement divers. Ça peut être des films d'aventure, ça peut être des comédies. Et là, il les tourne avec des tout petits budgets, des acteurs qui sont relativement peu connus. Il faut que ça aille très vite, ce sont des films qui sont courts. Donc là, je le trouve très, très rapide, très inventif, très brillant. Et à partir du moment où Capra, ce qui est son rêve de toujours, est récompensé par des Oscars de mise en scène, ou pour ses scénarios, ou pour ses principaux acteurs, j'ai l'impression qu'il prend un peu trop conscience de son importance, qu'il cherche beaucoup à faire passer un message, à donner une dimension sociale à ses films, qui perdent de leur spontanéité, de leur rapidité, de leur brio, pour devenir grave, devenir un petit peu plus important, devenir un peu plus sérieux, peut-être un tout petit peu moins séduisant au niveau du cinéma. Je trouve qu'il y a un effet de choc et de surprise encore formidable dans des films comme Lady Faraday, la première version de 32-33, ou The Bitter Tea of General Yen avec Barbara Stanwyck, ou les premiers films parlant de Capra. Et j'ai l'impression que ça commence à aller un petit peu moins bien à partir de New York Miami, qui est un film extrêmement brillant, mais qui est un film qui traîne tout petit peu en longueur. Je veux dire que la comédie a perdu de sa rapidité, Capra a perdu peut-être quelque part le sens de l'ellipse, il y a plus d'attendrissement, il y a plus le côté familial, il y a beaucoup moins d'agressivité, et ça doit être dû au fait qu'à ce moment-là, en trois années consécutives, je crois entre 34 et 37 ou 38, il est trois années ou presque de suite récompensé par l'Oscar du meilleur film ou la meilleure mise en scène, ça en fait un personnage extrêmement important qui commencera après à avoir des visées politiques et des ambitions politiques, qui fera des films nettement politiques, et sa virtuosité, son rythme, sa drôlerie se perdent un petit peu en route.
Alors, il y a quelque chose qui pose un peu problème, il me semble, chez Capra. lorsqu'on prend tout un certain nombre de ces films, que ce soit L'Extravagant Mr. Deeds, que ce soit L'Homme de la rue, que ce soit Vous ne l'emporterez pas avec vous, et on pourrait en citer d'autres, on s'aperçoit quand même que par rapport, je dirais, à une certaine Amérique telle qu'elle s'est traditionnellement bâtie, il y a quelque chose qui colle pas. Parce qu'il magnifie cette Amérique, et en même temps, il montre qu'il y a malgré tout conflit d'intérêts entre les gens de la base, l'Américain moyen, si on peut dire, le gens du peuple, et puis ce qu'il faut bien appeler les riches ou les bourgeois. Que ce soit les notaires dans L'Extravagant Mr. Deeds, que ce soit les banquiers dans Vous ne l'emporterez pas avec vous, etc. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on a l'impression donc à la fois, il défend absolument contre tout l'Amérique, et qu'en même temps, l'un des fondements de l'Amérique, il le remet quand même constamment en cause.
Et je crois que parce qu'une des inspirations de Capra en dehors de l'Amérique, c'est Dickens. Ça, c'est très sensible dans La vie est belle. C'est Dickens. Et Dickens, c'est le Londres d'une époque, victorien, où justement il y a la misère qui est un malheur, la reine Victoria qui est quand même bonne, mais entre deux les méchants qui sont pas bien. Et il reste un peu dans cette idée. Bon, moi à chaque fois que je vois La vie est belle, je pense au conte de Noël de Dickens, c'est vraiment très très proche. Bon. Et donc il a une espèce de manière d'aborder culturellement au niveau, disons, d'un divertissement populaire avec idée des choses, sur le système du conte. Le conte à la Dickens, je dis bien. Pas tellement à la Mark Twain, plutôt Dickens, plutôt anglo-saxon, très curieusement alors qu'il est italien d'origine. Et alors, ce qui se passe, c'est que il attaque des choses dans l'Amérique qui sont des choses en effet qui sont des plaies et il a raison de le faire, mais il sait aussi qu'il attaque ce que tout le peuple déteste. Le public populaire du Michigan, quand il voit les films de Capra de cette époque, il n'aime pas le notaire parce qu'à cause du notaire, il a perdu sa terre, s'il est paysan. L'ouvrier, il n'aime pas le patron qui a des milices qui l'empêchent d'aller pisser quand il a envie d'aller pisser en travaillant. Il y a tout ça qui joue.
Parlez.
Eh bien, je ne sais par où commencer après les multiples choses qu'on a dites à mon sujet. On m'a reproché mon goût du tuba. On a bâti un tas d'hypothèses qui ne mènent nulle part. Si on vous croit fou juste parce que vous jouez du tuba, il faudrait prendre garde parce que tous ceux qui jouent du tuba pourraient se retrouver à l'asile. Pourtant, je me crois assez normal. Je fais de la musique quand j'ai envie de me concentrer. Ça peut sembler bizarre à pas mal de gens, mais qui n'a pas des habitudes plus ou moins conscientes. Voyez le juge. Sait-il qu'il est un remplisseur de eau?
Un quoi?
Un remplisseur de eau. Vous avez rempli de crayons les espaces en forme de eau, je vous observe. Vous pourriez passer pour un type bizarre, votre honneur, quand vous siégez en remplissant des eaux, mais je n'y vois rien de mal, si cela vous aide à penser. Il y en a beaucoup qui sont des griffonneurs.
Griffonneurs?
Oui, c'est comme cela que j'appelle ceux qui font des barbouillages, d'extravagants dessins sur le papier sans s'en rendre compte. C'est ça, griffonner. Presque tout le monde est griffonneur. Vous-même avez déjà certainement vu dans les téléphones publics ces absurdes gribouillis que les gens exécutent sans réfléchir. Le docteur Von Holler, très probablement, nommerait cela d'un nom savant, car lui-même est presque tout le temps en train de griffonner. Merci. Voici le morceau de papier qu'il gribouillait. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air de représenter un chimpanzé, et l'instant d'après, on croirait que c'est Monsieur Sédar. Regardez, monsieur le juge.
Off, traduit en français par « Vous ne l'emporterez pas avec vous », tourné en 1938 avec James Stewart dans le rôle principal, on peut dire que Frank Capra revient à sa forme de pensée libérale et beaucoup plus que libérale, comme nous l'avons déjà laissé entendre, à une forme de pensée qui est quasiment libertaire, encore que ce soit un libertarisme tout à fait spécial, ce qui veut dire tout à fait américain. Qu'est-ce qu'on y trouve en effet? C'est l'exaltation de ce qu'on peut appeler la communauté de base, d'une communauté naturelle au départ, qui est celle de la famille, mais qui en même temps s'étend d'une part à toutes les personnes qui peuvent s'agréger dans cette famille, dans cet esprit de famille, alors même qu'elles n'en font pas partie par les liens du sang, et ensuite dans une communauté un peu plus large, le petit village qui regroupe les différentes communautés de base qui existent et qui correspondent, communiquent les unes avec les autres. Alors bien entendu, c'est à nouveau la lutte entre cet esprit de liberté qui est non seulement une liberté politique, mais une liberté intérieure à s'exprimer, à trouver sa propre magnificence subjective. Donc cette lutte avec tous les pouvoirs établis, avec les puissances qui sont à nouveau les puissances d'argent qui ont perdu l'idée de ce qui pouvait les légitimer. Et à travers le retournement procédé normal dans l'univers de Capra, c'est-à-dire la manière dont tout à coup les mauvais prennent conscience qu'ils sont mauvais et se ressouviennent de leurs véritables origines, ce qui est un peu le symbole de l'harmonica dont se sert le capitaliste, le père de James Stewart, harmonica qui lui revient de sa jeunesse, qu'il avait oublié et qu'à la fin du film il retrouve pour en jouer en communion justement avec cette communauté de base, eh bien, on retrouve cette idée qu'il y a comme une sorte de bonté inhérente à l'homme, en fin de compte une vue rousseauiste presque de la société, qui nous dit tout dépend de ce que nous allons décider, rien n'est jamais vraiment joué, et il y a réellement une possibilité de rachat et de salut de l'homme directement sur cette terre, en attendant éventuellement un autre horizon, celui que nous dépeignait l'horizon perdu.
C'est si profond que Capra a eu des ambitions politiques très précises, et qu'un de ses derniers films importants, qui était un échec commercial terrible, State of the Union, l'enjeu est un film délibérément politique. Mais justement, c'est là que quelque chose commence à me gêner dans le cinéma de Capra. Je veux dire, ce film qui se passe en partie au ciel, avec intervention d'un ange gardien, ça devient un tout petit peu bon dieuzard, un tout petit peu pleurnichard. Il y a encore des séquences extraordinaires dans It's a Wonderful Life, mais ça, je trouve que ça traîne un tout petit peu, ça devient un petit peu trop bon enfant, un tout petit peu trop systématique, c'est moins brillant, c'est moins fort, c'est moins spontané que les films du début de sa carrière. Bon, en plus, il faut dire qu'on a tellement vu et revu dans les salles d'arrêt d'essai, à la télévision, les grands classiques de Capra, comme « Vous ne l'emporterez pas avec vous » ou l'extravagant Monsieur Dietz, qu'ils ont perdu le côté nouveauté. Pour nous, on a plutôt tendance à en voir les défauts, alors que quand on passe du côté de la cinémathèque, ou quand il y a un cycle un peu rare au cinéma de minuit, et qu'on voit les Capra du début des années 30, ceux qui sont complètement inconnus, là on est surpris vraiment par l'originalité de la démarche de Capra, par sa capacité d'invention, par son énergie, par son rythme. C'est un cinéma totalement original, et on a après l'impression que ça devient très systématique et que Capra se répète de film en film.
Oui, mais tout de même, il y a peut-être un problème. Je pense par exemple à un film comme L'extravagant Mr. Dietz. Il est étonnant de voir, comme je l'expérimentais sur mon propre fils, par exemple, lorsqu'il le voit, en fait, il est très profondément marqué, même si nous, effectivement, on a tendance parfois à ne plus très vraiment le voir parce qu'on le connaît par cœur. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir un film qui est quand même très attaché à une période spéciale de l'époque américaine, qui peut parler encore à un jeune aujourd'hui.
Ben, ce sont des comédies qui sont très familiales. Et c'est peut-être là que l'on trouve ça un petit peu moins séduisant. Je veux dire, j'étais frappé en voyant des films américains récents, en voyant par exemple un film comme Baby Boom ou même un film comme Wall Street, de voir qu'il y a dans le cinéma américain des années 87 une sorte de retour au principe de la comédie à la Capra, avec des personnages, position un peu schématique entre des personnages bons, des personnages mauvais, et quelque chose qui les fait remarcher dans le bon sens, avec la victoire finale du bien. Ça c'est très Capra, et c'est un cinéma des années de crise. Capra aime bien les petits personnages, et c'est pour ça que les grandes comédies de Capra ont tendance à m'ennuyer un tout petit peu. C'est ce côté social un peu rabâché, un peu prêchi-prêcha. Moi, je suis pas très sensible au film où on s'attendrit sur la famille, où le grand-père se met à jouer de l'ocarina, où tout le monde fait la fête aux gens qui reviennent. Je trouve que ça a un petit côté facile, et puis peut-être qu'on a beaucoup trop vu tout ça et que on s'en est lassé. Moi, j'aime mieux les choses plus rapides, plus méchantes, plus nerveuses qu'il y avait dans les premiers films de Capra et qu'il continue à y avoir dans les films de McCarrey ou de Lubitsch.
Mais alors, il me semble qu'il y a quelque chose de tout à fait curieux, puisque vous faites le parallèle avec John Ford. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que, effectivement, d'une part, il y a cette sorte de croyance, à la limite sans mesure, dans les vertus de l'Amérique, dans les vertus de la démocratie américaine, et qu'il y a en même temps un aspect auquel souvent on ne prête pas très attention, il me semble, à savoir un certain aspect religieux qui est sans doute dû en même temps à leur origine. Qu'il y ait un aspect biblique, je dirais même en fait catholique, chez John Ford, un certain nombre de films le montrent quand même très clairement, je pense au Fils du désert, etc. Mais on a l'impression que dans beaucoup de films de Capra aussi, il y a en fin de compte comme une sorte, peut-être d'une manière moins ouverte que chez John Ford, mais une sorte de pétition que la liberté existe aussi parce que, en fin de compte, il y a une instance au-dessus de nous. C'est-à-dire, en fin de compte, ce qu'on appelle la religion.
Ben ça, c'est très curieux, parce que Capra, qui est d'origine italienne, c'est peut-être le représentant, c'est un peu tordu ce que je vais dire, mais je crois que c'est juste, de la Christian Science. Très curieusement, la Christian Science, qui est un truc vraiment imposé, très américain, je veux dire, qui est une sorte de mystique croyant en Dieu, mais n'ayant pas les éléments religieux d'habitude, avec la volonté de penser que la science, l'évolution, le progrès, tout ça et tout. On retrouve ça chez Capra, alors qu'à la base, c'est un petit Italien avec la marque catholique contre tous les Italiens, et que lui-même n'était pas, n'a jamais fait de film directement avec une religion étant motrice. Il y a peut-être un peu dans The Wonderful Life, La vie est belle, mais c'est fait dans une caricature à la Walt Disney décuplée, avec cet ange un peu ringard qui arrive, qui veut aider. Mais autrement, il y a une idée, je dirais, de la religion au sens le plus socius du terme. C'est-à-dire que l'on peut créer une famille. En fait, quand on voit, je prends un film qui est très frappant de lui, qui était un film considéré comme mineur et qu'on a revu récemment, qui vous ne l'emporterez pas avec vous, mais finalement c'est la base de ce qui s'est passé avec les hippies par la suite. C'est la vie communautaire, c'est les communes qui sont racontées. Où chacun, ce qui était une idée très mystique de la part des hippies, on est ensemble, on partage tout, on crée, chacun fait ce qu'il veut. Bon, il y avait ça dans un film qui est de 37. Bon, donc il y a en effet cette idée religieuse, je dirais, du groupe. Là aussi, on retrouve Ford, le groupe, dans lequel on est contre tous ceux qui veulent détruire cette joie de vivre, le bonheur de vivre que Dieu nous a donné, et qu'on va lutter contre eux, qu'ils soient capitalistes, qu'ils soient soviétiques, qu'ils soient, peu importe, tout ce qui représente le contraire même de ce que doit être la vie communautaire, heureuse des gens les uns avec les autres, ce qui représente aussi la chapelle, hein, la paroisse, si on veut, il y a ça. Mais la différence avec Ford, c'est que Ford, lui, est catholique à un sens militant politique aussi. C'est un Irlandais. Bon, hein, et qu'il faut quand même voir que chaque fois qu'il a pu faire un film sur l'Irlande, il a pris des positions extrêmement proches de l'IRA. Bon, donc c'est un peu différent quand même. Alors que chez Capra, il y a une idée de la béatitude dans la colère. C'est-à-dire, moi, ce qui me surprend quand je vois les films de Capra où il y a cette idée religieuse, c'est que on s'attendrait au début à cette béatitude qui continuerait, presque, disons, une résignation à la ouzou, j'allais presque dire, et qu'en fait, non, il y a quand même de la colère qui vient et de la révolte contre ceux qui veulent empêcher ce bonheur simple, ce bonheur, comme il est un petit peu chez Maupassant, vous savez, dans le plaisir, on est venu, les prostituées sont venues à la campagne voir le frère de madame, alors on va tout à la messe. Bon, il y a un peu ce côté-là, je veux dire, la putain au grand cœur, et c'est-à-dire, encore comme chez John Ford, tout le monde a le droit de vivre, tout le monde a le droit d'être ensemble, sauf si quelqu'un se permet d'être le diable.
Horizon perdu, qui date de 1937, s'inscrit très évidemment et très précisément en même temps dans la tradition de l'utopie américaine, d'une utopie campagnarde, d'une utopie agreste, dont on peut dire qu'elle remonte jusqu'à Thoreau au milieu du 19e siècle. Ce à quoi nous sommes confrontés, en effet, c'est à l'idée que par-delà les misères du monde, par-delà le destin fatal, en quelque sorte, qui entraîne l'univers dans lequel nous vivons et qui est symbolisé par la guerre civile à laquelle échappent les héros au début du film, existe comme une réalité édénique, une réalité paradisiaque qui se transcrit à travers l'existence d'un royaume oriental. Et je pense que ce terme d'oriental doit être retenu dans la mesure où il ne s'agit pas, bien évidemment, seulement d'un Orient géographique, mais en même temps de ce qu'il est convenu d'appeler un Orient spirituel. Nous sommes pas très loin, là, en même temps, du thème connu dans les milieux ésotéristes, et peut-être Capra ne l'a-t-il pas totalement méconnu, du thème qui est celui de l'Agartha, c'est-à-dire du royaume du centre du monde, qui est généralement, d'ailleurs, dans les différentes traditions, figuré comme devant exister dans une région avoisinant le Tibet, et ce n'est sans doute pas par hasard que dans ce film d'Horizon perdu, ce royaume rêvé, ce royaume idéal, cette utopie du Shangri-La, se place elle aussi par-delà les montagnes de l'Himalaya, dans une région qui est celle de la Haute-Chine, ou qui est celle du Tibet aussi.
Diable existe toujours chez Capra. Il n'y a pas le manichéisme, il n'y a pas le bien et le mal. Il y a le diable, parce que le diable a plusieurs visages. Le diable est beaucoup plus proche, disons, d'un banquier véreux et qui va empêcher la vie normale de Jim Stewart dans It's a Wonderful Life, qu'un personnage mauvais. Et c'est pour ça que pour lui, quand il fait « Pourquoi nous combattons ?», c'est que vraiment, les nazis sont le diable. C'est pas uniquement la raison idéologique au premier degré, c'est le diable. Et comme le diable, il faut s'attaquer à lui d'une manière bien précise, il faut savoir comment lui il attaque. Et alors là, on trouve un élément qui n'est pas chez Ford, c'est qu'est-ce que la tactique de l'autre et comment attaquer sur le même terrain que l'autre sur sa tactique. Bon, on remarquera que Mitt John Dee, l'homme de la rue, que M. Smith au Sénat, c'est fait là-dessus. C'est fait comment ça se passe, quel est le fonctionnement de ces types, comment je peux l'inverser en le connaissant. Mais quand on regarde comment il a fait Pourquoi nous combattons, l'histoire est très simple, c'est que bon, les nazis, ça l'inquiète, et il voit les films de Leni Riefenstahl. Et il dit c'est remarquable. C'est génial au niveau montage et tout, c'est ignoble sur ce que ça représente. Eh bien, prenons-en un exemple. Et faisons une série avec les mêmes effets de montage. Demandons à des gens, comme par exemple Donald Ziegler, qui était un jeune monteur. Demandons à John Huston, dont on sait que politiquement c'est un homme très clair, peut-être plus à gauche que moi, Capra, mais clair. Demandons à des gens comme Hitchcock, qui est anglais, qui va comprendre. Demandons à tous ces gens et faisons des films de fiction ou de documentaire avec tous les acquis que nous ont apportés sur les manipulations documentaires des pays totalitaires comme l'Union soviétique stalinienne avec les travaux qui pouvaient s'y passer, je parle des films documentaires, pas de Eisenstein, avec les films nazis, et attaquons-les sur leur propre terrain. Donc faisons le cinéma de documentaire de propagande, nous aussi. Et alors ce qui est ambigu chez Capra quand même, c'est qu'à force de jouer sur un mimétisme qu'il veut inverser, il fait aussi de la propagande. Même contre la propagande. Et là, à l'époque, il est vrai qu'en 38-39, hein, bon, la grande série du New Deal, ça peut être des films extrêmement merveilleux, Le lendemain vont chanter, Le bonheur est là. Mais quand on les analyse un peu, c'est exactement le même système filmique que des films qui disaient exactement le contraire, qui étaient faits à la même époque, avec moins de talent, parce que Capra, en plus, était un grand créateur. Mais cette espèce de jeu est ambigu. Le diable m'intéresse, je dois le combattre, je dois connaître ses pompes, voir comment avec ses pompes je peux travailler contre lui, et je verrai.
Pour essayer d'aller plus loin, Noël Simsolo, lorsque nous parlons de religion, j'aimerais bien que vous me donniez votre sentiment sur un film qui est assez bizarre, je dirais, qui est Horizon perdu. Parce que là, d'une part, nous sommes vraiment dans un contexte religieux, et je dirais ce que nous voyons fonctionner quand même à l'évidence, c'est le mythe du paradis perdu.
Oui, mais alors le mythe du paradis perdu, ce qui est étonnant avec Capra, c'est que ça rejoint ce que je venais de dire. Quand je vous disais que chez Capra, qu'est-ce que c'est que l'autre ? Et il faut le connaître pour pouvoir l'attaquer ou le comprendre. Enfin, le jeu est toujours double. Il y a toujours, dans tous les films de Capra, quand quelqu'un finit par convaincre un autre, c'est passé par l'agression. Bon. Eh bien, là, le paradis perdu dans lequel il tombe est aussi un paradis où d'autres civilisations existent. Bon, et il prend un mimétisme des civilisations orientales que l'on connaît. Et donc, il s'en inspire. De même qu'il avait fait de manière négative dans des films où il va un peu attaquer ce qui peut se passer en Chine et tout ça. Bon, faire du sous von Sternberg, comme il disait, ou du sur von Sternberg, comme lui, il pensait. Bon, il y a ça. Et quand il fait Horizon lointain, alors là, très brutalement, il découvre cette idée du paradis perdu, bien sûr. Il rejoint aussi le monde complètement de la littérature populaire. On peut penser à Rider Haggard, on peut penser à Mein Raid, justement, on peut penser à ça. Il rejoint également, et là c'est encore plus curieux, la bande dessinée de l'époque. C'était la grande époque où éclataient les Flash Gordon, le fantôme du Bengale, les justiciers dans la jungle qui voulaient tout arranger. Et finalement, il montre une espèce d'idée qui est terrifiante, parce que ça contredit tout son cinéma d'avant et d'après. C'est que pour aboutir à ce qu'il espère, il faudrait que l'utopie arrive. Alors que quand il fait les films, il nous dit, il a l'air d'y croire. Qu'on va arriver à des solutions comme ça. Mais quand il faut Horizon lointain, c'est l'utopie. Et en fin de compte, ça rejoint l'idée religieuse qui est celle de Capra, avec l'ambiguïté Capra, c'est que le paradis perdu, ça existe dans la religion chrétienne, c'est le paradis qu'on va retrouver après la mort. Mais lui, c'est pas ça. Le paradis, il existe, c'est une utopie. Et pourquoi l'homme, avec le progrès, n'arrive pas à cette utopie ? Mais lui, bien sûr, il ne peut pas comprendre. Il a un point qui le bloque, c'est que lui, l'utopie, il l'a rencontré. On revient au départ, on boucle la boucle. Et c'est petit Italien qui a travaillé pour ses études, qui a bluffé partout, qui a commencé par être un petit rien du tout à Hollywood, et qui peu à peu a eu plein d'Oscars et est devenu le plus grand cinéaste américain dans les années 30. Donc il ne comprend pas. Et il comprend encore moins quand après la guerre, après avoir donné vraiment tout son temps pour Guns Combattons, il fait un film sublime avec la maison de production qu'il a créé avec William Wheeler et George Stevens, qui est la vie est belle, The Wonderful Life, qui est un échec total, et jamais plus sa carrière ne pourra continuer. Donc, il a trouvé l'enfer, brusquement, alors qu'il était, lui, au paradis. Mais quant à l'idée du paradis perdu, qu'il fait citer dans un des Pourquoi nous combattons, à un moment, il fait dire que ce qui nous sauvera, c'est, et il dit le nom de ce paradis perdu, ça montre que c'était un homme à la fois naïf et lucide, et qu'en même temps, son mysticisme et sa religion dépassaient tous les dogmes.
Mary, le fameux poème dont je vous ai parlé, je viens de le finir. Vous souhaitez le lire ? Il est à vous.
Oui, je veux bien.
Surtout, ne dites rien maintenant. Vous le ferez. Dites-moi demain ce que vous en pensez.
J'ai arpenté la terre sans l'ombre d'un espoir, cherchant en vain ce que je voulais percevoir. Quand le ciel t'envoya dans sa pitié si claire, ô ange incomparable, ô être exemplaire, mon rêve s'est fait réalité, mais mon univers serait vide si tu t'effaçais et te dérobais à mes regards avides. Et mon cœur lancerait ce cri, redit mille et une fois, ô ange apparu dans ma vie, sois à moi. Sois à moi. Oh mon chéri.
Il existe un thème récurrent dans l'œuvre de Capra, auquel il faut sans doute accorder une assez grande importance, qui est celui de la femme. Il y a un certain nombre d'héroïnes dont on peut dire qu'elles sont directement positives, qu'elles sont directement accueillantes, qu'elles sont directement bienveillantes pour le héros. Mais il y a un autre type de femme que l'on trouve par exemple dans l'extravagant Mr. Deeds, que l'on trouve en même temps dans Mr. Smith au Sénat, que l'on trouve aussi dans Vous ne l'emporterez pas avec vous. Et cette régularité d'apparition de cette figure, bien entendu, signifie quelque chose. Il y a donc un autre type de femme qui est comme la femme trompeuse. La femme qui, au départ, attire le héros dans le piège, le fait chuter. Et en même temps qu'elle le fait chuter, comme une sorte de figure d'anima mauvaise, de projection terrible, de projection négative de son propre intérieur, en même temps qu'elle le fait chuter, elle découvre pourtant sa bonté intrinsèque. À quel point il y a une générosité de cœur chez le héros. Et alors il y a un processus d'inversion par lequel la femme qui avait fait tomber le héros est au contraire celle qui va lui tendre la main, qui va trouver la manière de le sauver. Et comme si, justement, le statut de la femme, là, se renversait de sorte qu'elle passe de ce pôle négatif à ce pôle positif. Comme si, à travers l'épreuve qui était vécue, une sorte de scénario de développement de l'âme était connu qui permettait à la femme de retrouver son véritable statut, c'est-à-dire d'être la médiatrice avec la bonté. Et on se rend compte, comme là, sans peut-être en avoir véritablement conscience lui-même, Frank Capra retrouve un certain nombre des mécanismes, ou plus exactement des dynamiques de l'âme, qui ont été sans doute repérés avec le plus de précision par la psychologie des profondeurs modernes.
Jeff has a paper there, boy stuff, right?
Terrific!
Well, look, they aren't letting what Jeff says get printed in the state. Now, if I give you a raft of it over the phone right now, write me a front page draft of the disc. Can you print it up and spread a billion copies of it? Swell. Get ready to take it down, will you, Mrs. Smith?
All right. Boys, everything about Jeff. Get pencils and paper, quick.
All right, here we go.
All ready, Clarissa?
She called me Clarissa.
Okay, Ma. Jeff tells truth. Shows up Taylor.
I want the whole morning edition. A blast to push him off the floor. Starts a campaign for protest. Yeah, wire.
Willard Dam is a fraud to line the pockets of the Taylor machine.
Here's your front page editorial. Wait a minute. A convicted thief representing you holds the floor of the United States Senate.
All right, boys, hurry up.
Fouiller un peu cette analyse des rapports de Capra avec le religieux, même si le religieux est pris au sens vague, il y a peut-être autre chose qui me frappe, c'est, je dirais, la manière dont un certain nombre de ces personnages principaux vivent presque, je dis bien presque en même temps, une expérience eucharistique. C'est-à-dire qui sont soumis à tous les outrages, qui sont traînés dans la boue, qui sont couronnés de la couronne d'épines, et puis, au dernier moment, pourtant, il y a quelque chose qui se détraque. Ils ne sont pas christiques jusqu'au bout.
Oui, alors, je crois que, si on prend l'homme de la rue ou M. Smith au Sénat, c'est un peu le même système. Sauf que dans l'un, c'est un roublard, et dans l'autre, c'est un naïf qui n'est pas roublard. Mais il se passe qu'en effet, ils ont un vrai calvaire. C'est-à-dire qu'au début, ils entrent dans la situation. C'est plutôt parce que c'est autant Moïse que le Christ, hein, en fin de compte. Ça dépend des cas. Ils peuvent entrer dans le Sénat, ou dans le système de l'organisation, disons, du fasciste déguisé, qui rachète le journal ou rachète une nuit de travail dans l'homme de la rue. Bon. Et il se passe que, bien sûr, ils ont ce calvaire, ils ont toutes les épreuves, ils arrivent à communiquer à des autres leur foi, qu'elle soit une foi que d'autres leur ont inventée, comme le cas de Cooper dans l'homme de la rue, ou la foi qu'ils ont comme Stewart dans Monsieur Smith au Sénat. Vous vous rappelez la scène des insignes de tous les gamins dans le Sénat, tous les gens qui veulent voter pour le personnage de Gary Cooper dans l'homme de la rue, avec même la scène de révélation où il comprend qu'il est le Christ quand on vient lui dire grâce à vous on peut se reparler, on peut tout faire et tout, et que Cooper change complètement du jour au lendemain. Il n'est plus le type qui voulait juste de l'argent et partir, pas se suicider. Bon, mais au moment où ils deviennent donc dans l'itinéraire christique, au moment où ils vont être crucifiés, on est en train de les crucifier. C'est vraiment comme si on était en train de monter la croix, on prépare les clous, on prépare le marteau, on met le Christ sur la croix, et d'un seul coup, hop, il sort de la croix, et c'est un autre qui est crucifié à sa place. Généralement, c'est celui qui devait être crucifié, c'est le Philistin. Bon. Et alors ça, c'est très clair. Et c'est fait par des pirouettes, d'ailleurs, complètement inacceptables au niveau scénarique. Si on lit le scénario de l'homme de la rue à la fin où il vient pour se jeter en haut de l'Empire State Building et ne se jetant pas, ça veut dire que les autres sont perdus, ceux qui sont venus le voir quand même, donc c'est eux qui vont perdre. Ou quand Claude Rains finit par avouer qu'il a tout manigancé contre Monsieur Smith au Sénat et qu'il sauve Monsieur Smith et que lui finit par se tirer une balle dans la tête dans un autre bureau. Bon, il est évident que ça, il faut l'immense talent de Capra pour nous le faire accepter. Je crois qu'un cinéaste moyen ferait ça, on dirait non, la fin est pas possible, vraiment c'est énorme, c'est trop gros. Il le fait passer. Mais ce qu'il fait passer aussi par là, c'est cette espèce de volonté, et je crois que ça rejoint justement l'esprit christique que les gens ressentent inconsciemment pendant le film, c'est que c'est quand même bien de voir que ce soit le diable qui soit crucifié plutôt que le Christ. Et en fait, il y a toujours cette pirouette à la fin qui réussit.
Votre honneur.
Oui.
Je voudrais moi aussi apporter mon grain de sel.
Très bien, allez prendre place. Allez vous asseoir.
Occupons-nous des sœurs Faulkner. C'est assez bizarre. Il me semble étrange que M. Cédar se soit déplacé en Mandrake Falls afin de les ramener. Vous permettez que je leur parle ?
Certainement.
Jane, à qui appartient la maison que vous habitez ?
Mais elle est à vous, Longfellow.
Oui, c'est la vôtre.
Vous payez un loyer ?
Non, nous n'en payons pas.
Juste ciel, non.
On n'a jamais payé de loyer.
Et vous êtes bien, là ?
Oh, oui.
Oh, oui, c'est sûr.
Voyons. Jane, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais pitiatique. Vous le pensez toujours ?
Mais vous l'êtes depuis l'enfance, pitiatique, Longfellow.
Depuis l'enfance ?
Très bien. De fait, c'est bien possible. Maintenant, dites-moi quelque chose, Jane. Qui d'autre à Mandrake Falls est pitiatique?
Mais tout le monde à Mandrake Falls est pitiatique, excepté nous.
Une dernière question, votre honneur. Vous voyez le juge qui est là, c'est un homme sérieux. Croyez-vous qu'il soit pitiatique?
Oh oui.
Oh oui, il l'est.
Un autre thème qui revient à plusieurs reprises dans l'œuvre de Frank Capra est celle du tribunal. Nous avons vu comment, lorsqu'il était confronté à la réalité d'une femme devant lui, le héros souvent devait vivre cette transformation de cette image négative de la femme dans l'image positive. Et ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'on se rend compte qu'en même temps, ce processus de métamorphose était lié avec ce que l'on peut appeler le thème du tribunal. Ce thème du tribunal, bien entendu, nous l'avons dans Mr. Deeds. Ce thème du tribunal, nous l'avons, quoique déporté sur un terrain politique, mais implicitement, c'est bien de cela qu'il s'agit, nous l'avons dans Mr. Smith au Sénat, lorsque Mr. Smith est mis en accusation devant ses pairs et que par la pratique du filibustering, cette manière d'occuper sans arrêt la tribune, selon le règlement même de son institution, il essaie de s'innocenter, il essaie de démontrer qu'en réalité, il n'y a rien à lui reprocher et que c'est lui l'innocent et ce sont au contraire ses collègues qui sont les coupables. Ce thème, nous le trouvons encore d'une manière tout à fait caricaturale d'ailleurs, dans « Vous ne l'emporterez pas avec vous », où les riches sont directement frappés, alors que les pauvres connaissent cette sorte de mouvement de solidarité qui montre quelle est la justesse de leur cause, quelle est la justesse de leur vie. Mais on voit bien comment le renversement dans l'œuvre de Capra se fait souvent justement à travers cette confrontation avec l'appareil de la justice, qui est subverti en même temps dans son rôle de manifestation sociale et où la justice, se déniant elle-même dans ce qu'elle est comme structure d'une société, finit par rendre compte de ce qui est la justice la plus profonde, c'est-à-dire de la vérité interne d'un homme, de la générosité qui marque profondément le cœur de toute humanité à partir du moment où elle n'a pas encore connu les dévoiements auxquels elle est éventuellement soumise. Or, ce qui est tout à fait remarquable en même temps, c'est que à travers cette épreuve, car c'est une véritable épreuve, car c'est une véritable confrontation à la mort, et d'une certaine manière, on s'en rend d'autant plus compte dans l'extravagant Mr. Deeds, où le héros est dans un état catatonique, il est quasiment dans une mort subjective, puisqu'il ne peut plus se défendre, eh bien, tout à coup, la remontée, le renversement du cours de la justice se fait justement par rapport à la figure de la femme. Et nous voyons bien comment là, nous avons une sorte de lien très étroit qui n'est pas sans rappeler, d'une certaine manière, les scènes grandioses de ce qu'étaient les jugements du tribunal de l'âme, de ce qui était en même temps le rôle d'Isis dans l'ancien livre des morts égyptiens. Alors, bien entendu, je ne prétends pas du tout que Capra avait en tête ces connotations, mais éventuellement, on peut les retrouver et on peut se dire que, de ce point de vue-là, Capra descend très profondément dans ce qui sont les ressorts secrets d'une psychologie et que, les mettant en situation, il nous dit quelque chose qui est à la limite aveuglant sur la condition la plus réelle de l'homme dans cette vie ici-bas.
Senator Smith.
This, here we go.
Well, I guess the gentlemen are in a pretty tall hurry to get me out of here. The way the evidence is piled up against me, I can't say I blame them much. And I'm quite willing to go, sir, when they voted that way. But before that happens, I've got a few things I want to say to this body. I tried to say them once before, and I got stopped colder than a mackerel. Well, I'd like to get them said this time, sir. And as a matter of fact, I'm not going to leave this body until I do get them said.
President, will the senator yield?
The senator yields?
No, sir, I'm afraid not. No, sir. I yielded the floor once before, if you can remember, and I was practically never heard of again. No, sir. And we might as well all get together on this yielding business right off the bat now. I had some pretty good coaching last night, and I find that if I yield only for a question or a point of order or a personal privilege, that I can hold this floor almost as old doomsday. In other words, I've got a piece to speak. And blow hot or cold, I'm going to speak.
Will the senator yield?
Will Senator Smith yield?
Yield, House.
Will he yield for a question?
For a question, all right.
I wish to ask my junior colleague, this piece he intends to speak, does it concern Section 40 of that bill, a dam on Willett Creek?
It does, sir.
Every aspect of this matter, the gentleman's attack on that section, everything was dealt with in committee hearing.
Mr. President.
I wish to ask my distinguished colleague, has he one scrap of evidence to add now to the defense he did not give and could not give at that same hearing?
I have no defense against forged papers.
Committee ruled otherwise.
Jamais Capra ne va jusqu'au bout de la parabole. C'est-à-dire que crucifier l'homme, ça voudrait impliquer immédiatement, dans son esprit d'Américain, l'échec du Christ. C'est-à-dire que c'est là la grande différence qu'il y a entre le christianisme d'un John Ford, où au contraire, les personnages peuvent être crucifiés. On pense à des personnages comme... je sais pas, il y a plein de films qui finissent très très mal. Enfin, c'est un des rares qui a fait des non-happy end. Bon, le Mouchard, par exemple, qui est comment un salaud devient un Christ et mais meurt sur les marches de l'église. Non, chez Capra, c'est pas ça. C'est que à partir du moment où il jouerait le Christ complètement, ça serait une contradiction sur l'Amérique. En Amérique, on réussit. En Amérique, les salauds sont punis. Donc, on ne peut pas imaginer que James Stewart revienne 10 ans après en ayant été jeté du Sénat et fasse changer les lois et crée, disons, la société merveilleuse américaine. C'est pas possible. Bon, qu'ils renaissent, disons, et qu'ils reviennent, ou que des gens disent « Nous te suivrons, tu es mort, mais nous porterons ta parole ». Ça, c'est pas possible. Et même sa grande colère, peut-être, à Capra, c'est de s'être rendu compte que sa parole à lui a donc disparu à une époque, on n'en a plus voulu, et qu'il n'y a pas eu, il y a eu personne pour reprendre ça. Le cinéma américain a cessé ce type de discours à partir des années 40. C'était fini. En fait, c'est un moment précis dans le cinéma américain que Capra a donné. Et les stigmates du Christ ne servent à rien. Il y a les films qui restent. Bon, mais aujourd'hui, la société a changé. Donc, c'est les films qui sont prodigieusement passionnants à voir au niveau sociologique, au niveau analyse de l'Amérique d'une époque, au niveau travail stylistique de Capra, au niveau de tout ce que le New Deal avait besoin pour justifier des éléments de sa politique qui n'étaient pas si justiciables que ça, mais qu'à l'époque, on voulait... tout était bon, tout était bien. Bon, là, on touche la politique. Et en fait, je crois qu'il était trop politique au sens le plus banal du terme pour jouer jusqu'au bout la parabole christique.
Merry Christmas, son. Merry Christmas.
Christ the Savior is born.
Long John.
Mr. Doe. Here, we'll help you with it. She'll be all right.
Mr. Doe, take her right down to the car.
They are, Norton, the people. Try and lick that.
Mais dans les critiques que vous faites vis-à-vis de Capra, cette exaltation des valeurs familiales, etc., est-ce qu'en même temps, Capra n'est pas aussi le révélateur d'une certaine société américaine, c'est-à-dire de l'exaltation des valeurs qui sont celles fondamentalement d'une certaine Amérique?
Ben oui, mais c'est pour ça que ce cinéma peut paraître aujourd'hui un petit peu décevant, là. Moi, j'aime bien les utopies, mais quand ce sont des utopies familiales, je trouve un petit peu fatigante et ça aurait tendance à m'endormir doucement, là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des moments de méchanceté absolue dans L'homme de la rue, par exemple. Je trouve que tout ce qui arrive à Gregory Peck est d'une extraordinaire méchanceté. Et c'est là qu'on se réveille un peu et qu'on sort du discours un peu trop traditionnel et familial, un peu à la Quatre filles du Docteur March. Je veux dire que c'est quand même quelque chose d'un tout petit peu dur, la comédie bien familiale avec le grand-père, la grand-mère, la bonne. C'est pas ce qu'on attend du cinéma, on attend plutôt des choses plus violentes, plus agressives. Et Capra a su être agressif, a su être violent, a su être provocateur, a su être iconoclaste avant de tomber dans cette sorte de sentimentalisme et de convention.
Mais que faites-vous, Alpha, alors, ou que pensez-vous de l'aspect de ces films de Capra, je dirais de l'aspect contestataire vis-à-vis d'un certain établissement? D'un certain établissement de pouvoir, d'un certain établissement financier, etc. Parce que je veux dire, par exemple, si on prend M. Smith au Sénat, la dénonciation, par exemple, des mœurs politiques américaines, on imagine difficilement un cinéaste français allant, tout au moins à l'époque, allant aussi loin que ça.
Oui, c'est vrai que ça va assez loin, que vous, le personnage d'Edouard Arnold dans des films comme Vous ne l'emporterez pas avec vous est d'une violence et d'une méchanceté assez terrifiante. Mais il y a toujours quelque chose qui s'arrête en route, c'est-à-dire que le personnage s'adoucit, retrouve une sorte d'humanité au contact d'un bon vieillard tellement gentil et tellement attendrissant qu'on ne peut pas lui résister. Et c'est là que, je ne sais pas, on a l'impression que la convention marche et casse un petit peu la force du propos.
Capra, il y a aussi une chose, c'est que quand il voit des cinéastes qui réussissent dans un genre, il a toujours aimé se prendre un genre-là. Quand Hawks fait Down Patrol, lui, il fait Dirigeable. Enfin bon, quand il voit les films de von Sternberg, eh ben il va faire Horizon lointain. Quand il voit, disons, certaines comédies que Lubitsch réussit bien, il les décale un peu à sa manière, en mélangeant les Hawks, et il fait New York Miami. Bon, à chaque fois, il a besoin, disons, de dire, ben moi je peux faire comme les autres. C'est comme Riefenstahl. Il voit Riefenstahl, je peux faire la propagande mieux qu'elle. Bon, il a besoin de dire, vous voyez, c'est pas de l'arrivisme, c'est, vous voyez, je le prouve. Je peux être très bien. C'est cette volonté. Et je crois que c'est ce qui fait que dans son cinéma, il y a peut-être l'époque qui éclaire le plus les raisons de son fonctionnement entre ce qu'il pense profondément, l'Amérique est formidable, géniale, mais il y a des salauds, il faut tuer les salauds et il faut que l'Amérique puisse être le grand pays qu'elle doit être. Bon, je suis américain avant d'être italien, bon, il y a ça. Et là, il le pense sincèrement. Entre, disons, la manière aussi où il joue certains jeux pour arriver à convaincre à tout prix, y compris les jeux les plus racoleurs, mais qu'il arrive à magnifier parce qu'il a le sens du sublime, il y a peut-être quelque chose qui éclaire tout, c'est les films qu'il a fait avec Harry Langdon. Parce que quand même, Long Pond ou des choses comme ça. Harry Langdon, c'est quoi? C'est le Béné ébahi. C'est pas Keaton qui est capable de reconstruire des maisons ou Chaplin qui fout le coup de pied aux fesses, disons, du bourgeois. Ébahi, qui va finir par réussir quand même. Parce qu'il est sincère, naïf, il est christique par son ébahissement, il réussit. Les B.A. Bon. Alors lui, il joue les B.A. en n'étant pas B.A. du tout et très combatif et très très fort, avec des mécaniques de structure étonnantes. Je pense que Monsieur Smith au Sénat est un modèle du genre. Je veux dire, vraiment, c'est un film qui dure plus de 2 heures. Je crois qu'il y a un mécanisme qui est... C'est un film qu'on peut pas voir au milieu et rattraper le début après. Je crois que c'est impossible. Il faut vraiment... On voit le film, on se rend pas compte du temps qui passe. Bon. Et alors là, c'est peut-être ça, c'est qu'en fait, Capra a toute sa vie été un faux naïf qui avait décidé, l'Amérique m'a tout donné, je crois en elle, à tout prix, donc je ne veux que rien, ni personne me permette de penser autre chose. Je pense que les méchants en Amérique sont ceux qui veulent m'empêcher de croire que l'Amérique est belle. Moi, je veux que tout le monde soit heureux en Amérique, je veux le prouver, et je le fais. Mais l'Amérique, c'est quoi? C'est un grand pays, il y a eu les pionniers, il y a eu tout ça, donc vive la nature aussi, la nature humaine, vive, tout le monde doit s'aimer, vive l'écologie. Je rappelle quand même que le premier grand film écologique américain, c'est simplement, vous ne l'emporterez pas avec vous. Bon, vive tout ça. Et je crois que le cinéaste le plus proche de Capra au niveau de cette manière de fonctionner, ça n'est plus dans ce cas-là les émigrés dont on a parlé, avec disons l'un qui serait beaucoup plus lucide que lui qui est Ford, et un complètement à l'opposé dans une attitude révolutionnaire qui serait Kazan, lui c'est Walt Disney.
D'ailleurs, curieusement, dans le livre de Capra, son autobiographie, qui est un livre absolument formidable jusqu'aux années 34-35, où il raconte justement comment il essaye de faire du cinéma à tout prix, comment il s'impose à la Columbia, s'est démêlé à la Caricone, mais à partir du moment où il est devenu un cinéaste célèbre, qui gagne beaucoup d'argent, son salaire a beaucoup augmenté, il habite une grande maison, etc. À ce moment-là, le livre est beaucoup, beaucoup moins spontané, beaucoup moins brillant, beaucoup moins drôle, beaucoup moins insolite. Il devient grave, il devient un tout petit peu sérieux, il y a une réflexion politique et sociale, mais c'est moins brillant, c'est moins gai, c'est moins fort que dans les débuts, qui sont extraordinaires.
Document inversé pour la défense. Oui, certains peuvent juger cela stupide, votre honneur, mais j'estime que c'est le droit du docteur von Holler de griffonner si cela lui permet de penser. Tout le monde a des manies différentes. Il y a par exemple ceux qui se pincent l'oreille, d'autres se rongent les ongles. Il y a ce monsieur Simple là-bas qui ne cesse de renifler. Et la dame à côté de lui fait craquer ses doigts. Vous le voyez, chacun fait des choses singulières qui l'aident à penser. Moi, je joue du tuba.
Chouette de plaidoirie.
Non, silence.
Cette audience tourne à la plaisanterie. Je demande que M. Dietz se dispense de telles remarques et se borne à présenter des faits. Qu'il nous explique ses vagabondages dans les rues sans aucun vêtement et pourquoi il a offert des beignets à un cheval.
Je vous en prie. Poursuivez, M. Dietz.
M. Sédar a raison. Ce que j'ai fait a l'air extravagant. Mais à dire la vérité, votre honneur, je ne me rappelle plus rien. Je ne nie pas que cela se soit produit, parce que je ne pense pas qu'un policier mentirait dans le service. Mais j'avais bu. C'est la première fois de ma vie que j'étais vraiment ivre. Cela vous est probablement déjà arrivé. Je veux dire quand vous étiez jeune, bien sûr. Je suppose que n'importe qui en a fait l'expérience. Tenez, l'autre matin, j'ai lu ce que le propre fils de M. Sédar avait fait. Ce jour-là, il était ivre, il a voulu conduire un taxi alors que le chauffeur était à l'intérieur. Est-ce exact, M. Sédar? Est-ce exact, oui ou non?
Votre honneur, je proteste. Poursuivez.
Si on prend des films comme L'Extravagant Mr. Deeds, ou comme New York Miami, ou même comme Vous ne l'emporterez pas avec vous, on s'aperçoit que là, il y a une sorte de fonction quand même très particulière qui est donnée à l'intervention du comique. Et que, à travers ça, il y a un certain nombre de choses qui se dévoilent. Je pense particulièrement à L'Extravagant Mr. Deeds, où lorsque le renversement se fait, par exemple, devant la commission judiciaire, c'est justement à travers une dénonciation, quand même, qui est follement drôle, des institutions, des gens qui l'accusent, etc., que Gary Cooper renverse toute la situation et sort, justement, de son rôle de victime.
Oui, mais c'est Gary Cooper. Il n'est pas fou. Capra, il prend Gary Cooper. Gary Cooper, c'est Monsieur Amérique. Quand c'est des personnages qui sont des faux naïfs et qui peuvent tout renverser, il prend Cooper. Et quand c'est des naïfs, il prend James Stewart. Bon, qui sont les deux pôles de l'américain typique. Enfin, on ne peut pas plus représenter. Ce qui est absolument formidable, c'est que quand Hawks voit que le sergent York est un type pas intéressant dans la vie, et comme c'est Gary Cooper qui le joue, il joue à fond le jeu. Bon, mais Hawks a l'intelligence après de faire jouer un professeur un peu stupide sur la linguistique dans Boule de Feu. Bon, quant à James Stewart, quand c'est Anthony Mann qui le prend, il en fait un personnage beaucoup plus ambigu dans ses westerns plus tard, ou alors carrément Hitchcock qui en fait un personnage vraiment très inquiétant. Bon, alors que Gary Cooper, toute sa vie, a joué des personnages qui sont l'Amérique pure. Et quand Capra a Gary Cooper, le public sait déjà que Gary Cooper va renverser la situation et va gagner. C'est le héros. C'est Mister America, c'est Captain America. Il y a ça. Mais l'idée du comique est intéressante parce que je crois que il y a un fil très italien chez Capra. Vous savez que les Italiens sont les meilleurs copistes du monde parce que souvent la copie est meilleure que l'original avec eux. Bon, on a vu ça en peinture, en littérature, on le sait aussi en cinéma. Je disais tout à l'heure que quand il voyait un Hawks, il voulait faire mieux que Hawks, Sternberg. Bon, mais il a commencé avec Max Sennett. Il est entré avec Max Sennett comme gagman. Il raconte dans son livre sur Hollywood comment ça s'est passé. Il visionnait, il était rien du tout. Il visionnait un des films qu'avait tourné l'un des habitués de Max Sennett et ça faisait pas rire Max Sennett. Il a dit mais supposons qu'il y ait dans ce cas-là un chat avec une assiette et que l'autre n'arrive pas à ouvrir la porte et tout et que quand le chat l'énerve vient avec l'assiette, d'un coup le chat met un petit coup de patte et la porte s'ouvre. Alors là tout le monde rit, il dit oui. Et le chat passe et la porte se referme, oui. L'autre regarde le public, donc tout le monde rit, son étonnement. Il essaie d'ouvrir la porte, il n'y arrive toujours pas. Bon, c'est-à-dire le sens du décalage et du comique. Donc un sens extrêmement mécanique de ce qu'on appelle le gag. Bon. Et connaissant cela, il savait que ce n'était pas assez. Donc il s'est posé la question, comment Lubitsch réussit ? Comment les autres réussissent le système de la comédie ? Et il découvre la donnée viennoise. Comme je vous ai dit, Dickens avait découvert des données du conte. Là, il découvre la donnée viennoise, qui est la donnée de l'inversion. Bon, c'est très bien que dans tout le cinéma de Lubitsch, comme de Billy Wilder, tout est fait sur l'inversion, ou dans le cinéma juif de Jerry Lewis. C'est-à-dire qu'une situation devient comique par l'inversion qu'elle est donnée, et on arrive à une solution. Inversion soit des personnages, comme dans certains même shows qui se déguisent en femme, mais également tout s'inverse jusqu'au le Nobody's Perfect à la fin. Et Capra connaissait ça, il connaissait parfaitement ces classiques. Bon, et il sait que pour pouvoir aller jusqu'au bout des mécaniques qu'il veut donner, pouvoir dire que l'Amérique a quand même des gens qui sont pas bien, mais que l'Amérique est bien complètement, il joue les inversions permanentes.
Stop and call. Don't worry. I've been ready for this.
John! Oh, John, please listen to me. Please, I can explain everything. John, I didn't know what they were going to do. Let me go with you, John. Please.
Go ahead, driver. Ballpark.
Explain it to you, John. Please let me go with you. Please. John!
Mr. Martin wants to see you. Oh. Listen to me, Mayor Lovett. You do as I say. I want them both arrested. You tell the police department to pick up Connell. I've got the girl here.
I've got the bullet.
I don't care what you charge him with. If you're worried, let him go in the morning, but keep him in jail overnight.
On disait tout à l'heure, il n'aimait pas les notaires, les banquiers et tout. Mais l'Amérique, c'est un pays où on n'aime pas les administratifs. On les hait. En Amérique, c'est le pays où vous pouvez arriver tout seul. Bon, et ça, c'est complètement dans l'esprit de Capra. Lui est un self-man, tout le monde doit l'être. Et que généralement, les notaires, les magouilleurs au niveau administratif, aux fonctionnaires et tout, sont ceux qui empêchent l'homme américain de devenir l'homme épanoui, heureux, s'entendant avec tout le monde dans la communauté. Bon, alors il sait aussi que ça, s'il fait un film trop sérieux avec ça, ça marche pas, parce que ça devient un film à message. Et il a très bien compris la phrase célèbre qu'avait dit un producteur important à un cinéaste. Il a dit, si vous avez un message, faites pas un film, envoyez-le-moi par la Western Union, c'est-à-dire par les télégraphes. Bon, il a compris ça. Et il dit, mais moi je mets le message quand même. Mais il le fait par une tricherie. C'est-à-dire le comique, la comédie, et en même temps, avec les scénarios. Quand je dis que les scénarios ont des fins, qu'au niveau de la lecture du scénario, on dirait que c'est énorme, parce qu'il y a le talent de le faire passer, mais tout le reste en dehors de la fin sont des scénarios d'une construction étonnante, avec des dérapages qui sont rattrapés d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on a beau les voir et les revoir, il n'y a pas un creux, il n'y a pas un vide. Ça va trop vite, même dans les scènes lentes ou de changement. Tout fonctionne à une allure telle, et à un rythme tel, mécanique tel, que l'on est pris par cette mécanique. C'est la mécanique qui vous broie, et forcément, on inverse à un moment la mécanique, alors ça freine. Ça rejette les mauvais éléments, et avec lui, il peut reprendre, là, débarrasser de toutes les petites saloperies qui se sont mises en scorie, que ce soit les notaires, les mauvais banquiers, les personnes à la Scrooge, comme dans La vie est belle. Capra, c'est vraiment, pas lui, parce qu'il est lucide, je mets les Américains au pays des merveilles. Et puis, c'est l'Amérique, et ça existe. Mais ça, on a retrouvé ça aussi dans les films pro-chinois de Godard à une époque. Hein, c'était vraiment Mao au pays des merveilles, la Chine. Bon, c'est-à-dire que dès qu'il y a une idéologie très forte qui est placée, où on veut se convaincre qu'on a raison, malgré les preuves qui montrent que c'est pas simple, eh bien, on tombe dans le merveilleux et on retombe dans l'utopie, donc on va à Horizon Lointain. C'est tout. Et Horizon Lointain, c'est le cinéma, finalement. Donc, ça retombe, il retombe sur ses pieds. Sauf que il a créé un système de films idéologiques qui a été imité souvent, et qu'on n'a jamais accepté, parce que mal imité, on le sait, ne citons personne. Bon, parce qu'il n'y avait pas une chose qu'on a toujours oublié chez Capra, c'est qu'en dehors de tout ça, et c'est peut-être plus important, il y a une écriture.
Les mardis du cinéma. Frank Capra ou la comédie de l'ambiguïté, par Michel Cazenave.
Il est toujours pitiatique. Aucun doute là-dessus.
avec Noël Simsolo et Dominique Rabourdin, écrivain et critique de cinéma.
These honored dead be taken increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly
resolve
that these dead shall not have died in vain. That this nation under God shall have a new birth of
freedom.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 mai 1988. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». ».